I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je vais changer de sac tous les jours, changer de chaussures tous les jours, changer de veste tous les jours. C'est très très rare que je porte deux fois, deux jours consécutifs la même chose. C'est un passe-temps comme un autre, il y en a qui aiment bien aller au sport. Moi je fais du shopping, c'est un peu plus cher, mais voilà.
À la mode, le shopping. Rien de plus facile pour se changer les idées. Quelques grammes de textile et ça repart. Seulement voilà, en moyenne, les vêtements ne sont portés que 7 à 10 fois. Oxfam a calculé que par an, un Français achète 9 kilos de vêtements, mais que dans le même temps, il se débarrasse de 3 kilos. Et ça, ça a des conséquences. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va voir ce que le recyclage peut réellement faire ou ne pas faire de ces tonnes de vêtements dont on ne veut plus. Côté environnement, on accuse l'industrie textile d'émettre 10% des gaz à effet de serre. Et côté placard, 40% d'un vestiaire ne serait jamais porté. Où est le problème, me direz-vous? Le circuit de la seconde main est là pour absorber l'excédent. Et d'ailleurs, ça marche, en tout cas économiquement, puisque le secteur a connu une croissance de 50% en 2019 et pourrait encore doubler dans les années à venir.
Patatam ! La mode enfant seconde main, premier choix.
Patatam en est un des acteurs français. Il vend du vêtement d'occasion en ligne, mais a aussi converti des grandes chaînes du textile à implanter des rayons de seconde main au sein même de leurs espaces. J'ai demandé à Éric Gagnère, le fondateur de Patatam, s'il pensait que son activité était la solution face au surplus de production dans le textile.
Non, du tout, du tout, du tout. Nous, en fait, on ne règle pas ces problèmes de surplus ou de vêtements non réutilisables. Nous, on va simplement peut-être, même certainement, éviter de produire un nouveau vêtement, puisque les gens consomment de plus en plus de seconde main, au détriment des vêtements neufs. Mais on ne va pas régler le problème des surplus.
Parce que comment ça se passe en réalité dans ce que vous collectez?
Alors, c'est très simple. Nous, on a différents partenaires. Les principaux sont les acteurs de la grande distribution, donc pour citer Auchan, Système U, Carrefour, Leclerc et Cora, sont nos partenaires. On a des partenaires aussi comme Kiabi, Gémeaux ou Decathlon. Et on va collecter via leur magasin, via des sacs qu'on va appeler un Auchan bag, un Kiabi bag. Les gens les récupèrent en magasin, le remplissent de vêtements dont ils veulent se débarrasser. Ils savent qu'ils auront un bon d'achat s'ils respectent des règles de tri. Et nous, on reçoit ces vêtements dans notre entrepôt dans le sud-ouest, dans les Landes. Et on va trier ces vêtements, c'est-à-dire qu'on va ouvrir chaque sac et on va regarder ce qui est vendable ou pas. Et il y a environ un vêtement sur deux qui n'est pas revendable. La plupart du temps, c'est des trous, des taches trop usées, déformées, pour des problèmes d'usure, tout simplement. Et dans ce cas-là, on va devoir le refuser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le revendre dans un de nos canaux de revente de seconde main, soit physique, soit en ligne.
Du coup, que deviennent ces vêtements?
On est très transparent sur ce qu'on en fait. La plupart de ces vêtements partent à l'export aujourd'hui et la plupart de cet export s'effectue en Afrique. On a un tout petit marché sur les marchés en France, les gens qui vont vendre des pièces sur des marchés en France, ça représente moins de 5%. Mais la plupart, ça va partir en export en Afrique. Donc, on revend ça au kilo à un prix très, très bas. Ça couvre même pas nos coûts puisqu'il n'y a pas d'autres débouchés pour les volumes qu'on traite. Donc, on est obligé de les vendre au kilo en Afrique. Le recyclage, il y en a très peu au final. Il existe sur le 100% coton. Ça, c'est très facilement recyclable. Mais il faut savoir que ça représente moins de 8% d'un gisement. Donc, moins de 8% de ce qu'on collecte sont du 100% coton. Donc, les matières, ce qu'on appelle mêlées, c'est-à-dire un mélange de coton et de polyester, par exemple, sont quasi aujourd'hui irrecyclables. Aujourd'hui.
Quelle est la réalité du recyclage dans le textile, selon vous?
Alors, nous, on en est finalement, on est au début du recyclage et on voit que là aussi, il y a encore beaucoup à faire, il y a très peu de choses. Le recyclage en tant que tel, pour moi, il est balbutiant, il n'existe pas. Je vais peut-être énerver beaucoup de gens en disant ça, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, il n'existe que sur le 100% coton, et c'est comme je vous disais, ça représente très 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 peu. On peut en refaire par exemple de l'isolant maison, ce que fait des acteurs comme Le Relais ou Wateco, mais c'est vraiment infime, on traite très très peu de volume. La plupart des autres vêtements, soit ils sont exportés, soit ils sont brûlés. Aujourd'hui, on le dit peu, mais oui, ils sont brûlés, puisqu'on ne sait pas quoi en faire. Alors, on va appeler ça brûler pour faire de l'énergie, mais ils sont brûlés. La réalité du recyclage, il y a encore 5 ans, voire 10 ans de travail pour traiter vraiment le recyclage. Et il y a beaucoup de choses à faire aussi en amont. C'est-à-dire que le problème du recyclage, c'est que aujourd'hui, on va traiter des vêtements avec des matières complètement hétérogènes. On va avoir une fois 50% de coton, l'autre fois 60% de coton. Donc, il y a aussi une éco-conception au début de chaîne à bien mettre en place si vous voulez que vos recyclages soient efficaces, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
C'est très important de savoir que le polyester aujourd'hui, c'est une matière synthétique qui est issue des matières pétrolières. Donc, c'est une matière dans laquelle on va épuiser dans les ressources naturelles pour en produire. Il faut imaginer que la partie matière première aujourd'hui, quand on fait du recyclé, on ne puise plus dans les ressources, mais plutôt on va récupérer des déchets qui sont les bouteilles qu'aujourd'hui on peut trouver partout dans le monde.
J'ai pu voir sur un site de vêtements en ligne qu'ils affichaient bien en vue que certains articles étaient faits en polyester recyclé. Ils le revendiquaient même. Il y a donc une voie circulaire de ce côté-là.
Oui, en fait il y a une voie sur tout ce qui est 100%. 100% coton, 100% polyester, 100% lin, 100% laine, tout ça, ça y a une voie, ça existe, puisque c'est un gisement à 100%, donc c'est facile, par définition, il est facilement recyclable dans sa matière d'origine. Le problème, c'est qu'il y en a de moins en moins. On va prendre l'exemple du jean. Jean qui, il y a quelques années, était très facilement recyclable, puisque la plupart des jeans étaient en 100% coton. Et maintenant, on a vu apparaître récemment de l'élastane. On en met partout, de l'élastane dans les jeans. Et là, le jean devient beaucoup moins recyclable. En ce moment, il y a beaucoup de marques, dont je tairai le nom, qui jouent sur on sauve des bouteilles en plastique qu'on récupère dans l'océan pour en faire des vêtements. Ça, c'est une véritable bombe écologique pour moi, parce que vous partez effectivement d'un gisement de bouteilles en plastique, polyester, 100% polyester, facilement recyclable la plupart du temps. Et en plus, le dispositif du polyester est très bien en place, c'est-à-dire que ça redevient du granulé pour en refaire des bouteilles. L'industrie, certaines marques de l'industrie de la mode se sont emparées pour en refaire du fil de polyester. Alors, ça sera du polyester recyclé. Le problème, c'est qu'ils le mélangent à du coton. Alors, coton bio ou pas, mais ils vont le mélanger. Et donc, in fine, vous partez d'un gisement 100% polyester, parfaitement recyclable, et vous en faites un gisement mêlé à du coton qui n'est plus du tout recyclable. Donc, vous avez aggravé le problème. Le remède, il est pire que le mal. Donc, pour moi, c'est une bombe écologique, puisque en ce moment, beaucoup de marques y vont sans se rendre compte de se dire qu'est-ce qu'on va faire au final de ces vêtements. On ne pourra pas les recycler.
D'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait comme organisation pour notamment toucher l'amont? Enfin, quelle est la force de frappe à adopter pour que ça change et à quelle échéance?
En France, on a la chance d'avoir un éco-organisme qui s'appelle EcoTLC, qui s'appelle maintenant ReFashion. Pour moi, on doit s'appuyer sur cet éco-organisme pour travailler le recyclage, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a deux étapes pour moi très importantes. Les marques commencent à s'y mettre, c'est l'éco-conception. On disait tout à l'heure, c'est comment on va concevoir un vêtement pour qu'il soit facilement recyclable, notamment sur les compositions, sur les couleurs, sur les points durs, c'est-à-dire les fermetures éclairs, par exemple, ou les boutons. Donc déjà, mieux concevoir son vêtement. Et après, il y a tout, et c'est là pour moi où il y a la plus grande faiblesse, c'est de trouver, travailler, investir énormément à coups de millions, et pas à coups de dizaines de milliers d'euros comme c'est fait aujourd'hui, sur des filières de recyclage. Vraiment, est-ce que, par exemple, comme peut le faire très bien H&M, eux investissent énormément sur extraire du polyester quand c'est mêlé, extraire les matières sur des process de thermochimie, sur des process de plus de chimie verte qui vont permettre d'extraire les matières. C'est ces deux points pour moi qui sont essentiels. La conception du vêtement pour faciliter son recyclage et là où il y a plus de travail à faire, une vraie filière de recyclage avec la recherche et investir sur comment on peut traiter ce gisement. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau Europe, on commence à voir des choses. Ça s'appelle Euratex, qui va faire des hubs. La France ne fait pas partie, je ne sais pas pourquoi. Donc, il y a des pays, la Belgique, l'Italie, je crois, l'Espagne, toute une série de pays européens qui vont être soutenus par l'Europe avec un projet ambitieux financé avec d'argent, la France n'en fait pas partie.
Faire des hubs, mais de quoi exactement? Comment fonctionnerait Euratex?
Bah justement, c'est de créer plusieurs hubs dans ces pays, dans les pays que je vous ai cités. Donc un pays, je pense que c'est un hub par pays, qui va traiter cette circularité. Mais vraiment de A à Z, c'est comment on collecte, qu'est-ce qu'on fait de ce gisement, et financé donc par l'Europe, plutôt bien financé. Mais la France ne fait pas partie des pays sélectionnés pour ce projet.
Euratex, c'est la Confédération européenne de l'habillement. Elle veut raccourcir les circuits et valoriser les déchets textiles au sein de l'UE. Son objectif est de collecter et de transformer 5,5 millions de tonnes à horizon 2025. C'est presque le double d'aujourd'hui. Quand on sait que 1% seulement des tissus qui composent nos vêtements sont recyclés et réutilisés pour en créer de nouveaux, on mesure la marge de progression qui existe. Mais ça, c'est en bout de cycle. À l'amont, chez les marques de vêtements, je me suis demandé si cette question de la circularité était devenue importante.
C'est évidemment devenu une question extrêmement importante et c'est une importance croissante. Hein. On voit bien que beaucoup de consommateurs, de clients se posent la question de ce recyclage et que de professionnels aussi se posent la question du recyclage et de l'économie circulaire.
Pierre-François Lelouette est président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin.
Il y a de réelles avancées qui aujourd'hui ont lieu et donc beaucoup d'espoir pour permettre à la mode d'être un peu plus en phase avec les principes de l'économie circulaire. La question du développement durable n'est pas exclusivement une question liée aux consommateurs, mais que les marques ont une réelle responsabilité qu'elles doivent assumer. Il y a maintenant une véritable conscience de la part des marques que c'est à la fois bien pour la planète et que ça peut être bien également pour leur modèle économique. Donc là, on est vraiment sur une double détente, entre guillemets, du côté des marques, qui est extrêmement intéressante et qui s'accélère beaucoup.
Est-ce qu'il y a des contraintes déjà, des incitations à prendre en compte le recyclage textile?
Il n'y a pas aujourd'hui d'obligation de recyclage, si ce n'est qu'il y a bientôt une obligation d'interdiction, de destruction des invendus. Et que, à juste titre, hein, la loi Poisson, qui est parue l'année dernière, a donné un horizon maintenant aux marques de revoir leur manière de fonctionner, de réduire leur stock, de réduire leur production pour faire en sorte que ce qui est produit aujourd'hui soit vendu le plus rapidement possible et que nous n'ayons pas tous ces stocks épouvantables qui viennent alimenter une certaine partie de cette filière du recyclage. Je pense que tout le monde serait content s'il y avait moins de choses à recycler. Donc la première des mesures à prendre, c'est celle de réduire la taille des collections, de réduire la production et de trouver donc un maximum de moyens pour faire en sorte que les collections qui sont mises sur le marché soient réellement vendues et qu'on ne sorte pas avec des stocks qu'il s'agit de recycler ensuite. Donc là, il y a aussi, et c'est une des chances que nous avons en France, c'est d'avoir tout un écosystème de fashion tech très intéressé sur toutes les questions de data qui permettent d'optimiser beaucoup aujourd'hui la taille des collections et de prévoir les ventes, notamment grâce à de l'intelligence artificielle, et donc de constituer une offre qui soit la plus à même de rencontrer une demande, un marché, et que l'on n'ait pas plus, en tous les cas, à surproduire en espérant de vendre le t-shirt que l'on a mis sur le floor.
Comment en est-on arrivé à cette situation où l'on consomme deux fois plus de vêtements qu'il y a 15 ans? De quoi est-elle née et qu'est-ce qui l'a alimentée?
Je pense que toutes les années 2000-2010 ont mis en place une espèce d'explosion de fast fashion où on a vu qu'il y avait des clients qui étaient extrêmement attirés par toute la nouveauté qui pouvait apparaître dans la mode. Et donc, il y a une espèce d'inflation de nouveautés qui fait que finalement, la mode s'est un peu perdue hein, dans cette excroissance absolument folle. Et qu'en parallèle, les vêtements qui étaient achetés par les clients étaient de moins en moins utilisés, ce qui est quand même étrange. Donc là aussi, le premier des préceptes du côté des clients, c'est bien sûr, et ça paraît tout bête, mais de porter les vêtements qu'on achète. Et malheureusement, on les porte pas encore suffisamment pour pouvoir justifier leur existence. Donc, il y a eu un mouvement comme ça de nouveauté extrêmement fort, mais il y a aussi depuis une dizaine d'années maintenant un mouvement inverse qui montre notamment en France hein, que la consommation d'habillement baisse, elle baisse de manière régulière depuis 12 ans maintenant. Depuis 12 ans, en gros, un gros tiers du marché de la mode a disparu. Donc on voit bien que la consommation, elle est beaucoup plus raisonnée et que autant l'énergie florissante ou la volonté de consommation déraisonnée ayant mené à une certaine surproduction dans les années 2000. Depuis le début des années 2010, on n'est plus exactement dans la même dynamique. Donc, toutes les allégations dont on ne sait pas très bien d'ailleurs d'où elles viennent, de la mode est la deuxième économie la plus polluante du monde. Il y a eu plusieurs enquêtes du New York Times notamment qui ont prouvé le contraire. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des efforts à faire. Mais en tous les cas, ça veut dire que depuis 10 ans déjà, il y a une baisse de la consommation d'habillement en France et que s'il y a une baisse, évidemment, la mode est moins polluante qu'elle n'était il y a 10 ans. Et encore une fois, jamais depuis 2-3 ans maintenant, tous les efforts des entreprises et des marques de mode sont concentrés sur le fait de répondre à des exigences des consommateurs qui exigent de mettre plus de sens dans leur consommation, qui considèrent l'acte d'achat comme un acte politique et qui lisent les collections comme on lit des manifestes aujourd'hui. Donc c'est aux marques de mode de définir leur mission, de définir leur positionnement, de définir leur singularité et de prouver à leurs clients qu'elles sont vertueuses et qu'elles ont mis en place des systèmes pour faire en sorte que leur production ait le moins d'impact possible sur la planète et le plus d'impact positif sur la société.
Le nouveau consommateur, qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il regarde en premier ?
Il regarde plusieurs choses, ce consommateur. Ce qu'il veut déjà, ce sont des engagements. Comme je le disais, des engagements de la part des marques. On a une étude qui est citée par BPI France et qui concerne le site internet assez connu qui s'appelle List et qui montre que les recherches qui concernent les vêtements éco-responsables ont bondi de 50% en l'espace simplement d'un an. Donc on voit bien que cette dimension engagement éco-responsabilité, elle est très forte. On voit qu'il y a un véritable engagement aussi des consommateurs eux-mêmes. L'association Paris Good Fashion a lancé une campagne citoyenne sur mec.org qui a rassemblé plus de 107 000 participants avec 3 300 propositions qui ont été collectées. Donc, on voit bien que cette question est une question qui intéresse les clients. Et qu'est-ce qui ressort en termes de thématiques qui intéresse en particulier les clients de toutes ces enquêtes qui sont faites? La première, c'est la question du recyclage et de la seconde main dont nous venons de parler. Il y a la question de la relocalisation, du rapprochement des zones de production et notamment d'un vrai désir de « made in France », de « made in Europe » que l'on voit grandir de manière régulière depuis de nombreuses années. Et la nouveauté, c'est qu'il se caractérise dans des achats réels depuis maintenant 18 mois, 24 mois. Des intérêts réels également sur les matières, les process de fabrication, les labels, la définition de qu'est-ce qu'est une matière green et certifiée. Il y a aussi beaucoup d'intérêt sur la question des emballages des vêtements pour être sûr qu'ils soient eux aussi éco-responsables et afin que l'on puisse réduire l'utilisation des plastiques à usage unique la plupart du temps. La question des droits de l'homme, évidemment, intéresse aussi. Donc, on voit bien que l'intérêt, il est vraiment grandissant et que les sujets majeurs, c'est le recyclage, c'est le made in France, ce sont les matières responsables, si on devait citer trois grandes thématiques.
Et quelles sont les avancées déjà réalisées ou en cours ?
Donc l'étiquette, oui, la traçabilité est un véritable enjeu. Toutes les nouvelles technologies blockchain nous permettent de développer des solutions de traçabilité plus efficaces. Et puis surtout, ça va devenir une obligation là aussi dans les années qui viennent, puisque au niveau français avec l'ADEME comme au niveau européen, il y a aujourd'hui de véritables travaux très approfondis sur les questions d'affichage environnemental parce que malheureusement, il y a beaucoup de labels extrêmement différents aujourd'hui, vous le savez, dans le domaine de la mode, que le consommateur y voit pas extrêmement bien. Donc, il s'agit de définir des nouveaux référentiels et que de la même manière qu'on a des référentiels sur Yuka dans le domaine de l'alimentaire, par exemple, ou de la cosmétique, on puisse avoir un référentiel dans la mode qui puisse rassurer les clients finaux de toutes nos jolies marques sur l'origine des produits et sur les qualités RSE des produits en question.
L'affichage environnemental pour le textile, ça consisterait en quoi ?
Parce qu'il y a une note de 1 à 5, par exemple, de manière très simple, mais il faut définir un certain nombre de critères. Et puis, en fonction des critères, du rapprochement des lieux de fabrication, est-ce que c'est fait en France, est-ce que c'est fait en Europe, est-ce que c'est fait en Asie, etc., pour la confection, mais aussi pour le tissu, mais aussi pour les fibres, quelle est la consommation de carbone associée à la fabrication du vêtement en question, etc. Bref, que tous ces critères associés puissent aboutir à une note qui soit très lisible pour les consommateurs à la fin.
Auriez-vous vocation à créer des règles ou un label pour que le consommateur s'y retrouve ? Parce qu'actuellement, c'est plutôt la jungle dans les labels. On ne sait auquel se vouer.
À non. Alors moi, je ne vais pas créer un label en plus, certainement pas. En revanche, la première étape, et c'est ce que nous avons fait, c'est que dans le guide sur les approvisionnements responsables de la Fédération qui est en téléchargement ouvert sur prêt-à-porter.com, nous avons développé un outil qui permet aux marques de mode d'y voir plus clair dans tous ces labels, de voir quel label correspond à quoi et ce à quoi ils s'engagent vraiment. Et quels sont parfois les labels un peu limites qu'on ferait mieux d'oublier. Donc la première chose, c'est d'y voir plus clair dans cette jungle des labels et de développer des outils pour pouvoir le faire. Et la deuxième, ça va être de coordonner au niveau français avec l'ADEME et au niveau européen avec tous les travaux de la Commission, la mise en place de cet affichage environnemental pour qu'on ait des règles extrêmement claires et lisibles pour les consommateurs.
Alors pour la beauté et l'alimentaire, on a Yuka. Je le rappelle, Yuka, c'est une application qui permet de vérifier la qualité des produits en scannant leur code barre. C'est d'une efficacité redoutable. Est-ce que demain, on pourrait voir apparaître la même chose pour le vêtement et est-ce que ça risque d'en faire trembler plus d'un?
Oui, le tout, c'est que ça fasse trembler les bonnes personnes. Ce que je veux dire, c'est que derrière, et c'est la raison pour laquelle nous nous battons en utilisant toute notre influence possible au niveau européen, c'est qu'il faudrait par exemple qu'un t-shirt en polyester, sous prétexte qu'il utilise moins de matière qu'un très joli t-shirt de qualité qui va durer plus longtemps, d'une très jolie marque qui fabrique en France, ce serait mieux que le t-shirt en polyester made in très très loin n'ait pas une meilleure note que le t-shirt fait en France avec une très jolie matière. Donc, notre enjeu, c'est justement de trouver les bons critères pour faire que l'affichage environnemental puisse, un, être utilisé par un maximum de marques, donc que ce soit un outil à la fois utile, sérieux et relativement simple pour que toutes les marques puissent l'utiliser, et deux, que ce ne soit pas un outil au service de marques qui essaieraient de le détourner pour faire passer certaines habitudes qui les arrangeraient ou certains modes de fabrication qui les arrangeraient et qui sont finalement pas très vertueux. Il existe déjà des Yuka du vêtement. Je pense notamment à l'application Clear Fashion pour vérifier en toute transparence si les conditions de fabrication sont bonnes ou pas. Donc, il y a déjà des outils qui se rapprochent dans notre domaine mais qui ne sont pas totalement généralisés. Là, l'enjeu, bien sûr, dans les 3 ans qui viennent, c'est de mettre en place un système qui soit généralisé à l'ensemble des marques.
En fait, le secteur doit travailler pour l'avenir à des synergies et à des règles communes.
Exactement. Et elle nécessite un maximum de transparence. D'où cette question de la traçabilité qui est extrêmement forte parce qu'on a besoin de savoir dans un vêtement quelles sont les fibres qui ont été utilisées, d'où viennent ces fibres, où est-ce que ça a été tissé, où est-ce que ça a été confectionné. C'est une véritable révolution qui est en train de se mettre en place au sein de la filière textile-habillement européenne. C'est cette révolution de la transparence, de la traçabilité qui va permettre de donner une information extrêmement claire aux consommateurs. Quand on achète une brique de lait au supermarché, c'est relativement facile de savoir dans quelle zone la vache a été élevée. Mais dans notre métier, il y a tellement d'étapes de transformation de la matière avant d'arriver à la confection d'un pantalon ou d'une robe que ça nécessite beaucoup, beaucoup de coordination. Mais c'est tout à fait possible et c'est ce à quoi nous nous attachons collectivement.
Plus de circularité dans le textile devrait donc rimer avec moins de vêtements et d'une meilleure qualité, mais avec des distances réduites. Aussi.
Et on détaille beaucoup de choses dans le rapport, mais surtout de faire évoluer les mentalités à plein de niveaux pour que les gens comprennent en fait les enjeux qu'il y a derrière. Un des premiers, c'est vraiment, et c'est un des plus gros constats du rapport, c'est de se dire le prix en fait. C'est vraiment faire comprendre qu'est-ce qu'il y a dans le prix du Made in France, qui apparaît plus cher, mais vraiment d'en faire une étude en coût complet, ouais. De comprendre en fait pas juste le coût du produit, mais tout ce que ça veut dire autour, économiquement, toutes les charges avec les allers-retours de d'où vient le produit, de mise au point, de vraiment le considérer le coût complet, et puis en plus du coût complet économique, le coût sociétal, donc les emplois que ça crée, et le coût environnemental de faire venir ces produits de l'autre bout du monde.
Le rapport évoqué dans cet extrait sur BFM TV, c'est celui qui a été remis au gouvernement le 19 janvier dernier par le comité stratégique de la filière mode et luxe. Son titre, relocalisation et mode durable. Peut-on vraiment refaire ce qui a été défait? J'ai demandé à Dominique Chapuis, qui est la journaliste en charge de la mode et du luxe aux Échos, jusqu'à quel point cela était possible.
Dans le rapport qui était remis au gouvernement, l'objectif, c'est de doubler la part du Made in France dans la consommation actuelle, c'est-à-dire d'atteindre 25% des produits achetés à terme. Donc à terme, ça veut dire sans doute dans des années, puisque c'est effectivement un véritable défi. Donc quand on parle de relocalisation, il faut faire attention, il ne s'agit pas de la confection des vêtements, hein, parce que ça nécessite des couturières et donc beaucoup de main-d'œuvre, et c'est très compliqué à robotiser la fabrication de vêtements. Donc l'idée, c'est plutôt d'investir dans la partie amont, c'est-à-dire dans la fabrication de matières, de tissus, qui est une étape clé effectivement dans l'habillement. Et la France, alors peu de gens le savent, est un gros producteur de lin dans le monde. C'est aussi un grand producteur de chanvre et de laine. Et en fait, on a très peu de filatures, on a très peu de tisseurs ou d'usines de tricotage. Donc en fait, l'objectif du rapport, c'est d'attirer l'attention sur les entreprises qui restent en France et d'attirer l'attention des pouvoirs publics pour les aider et pour augmenter les capacités. Et concernant en fait la confection, ce serait plutôt de se tourner vers les pays du bassin méditerranéen, que ce soit le Maroc ou la Tunisie, avec lesquels on travaille déjà depuis des années.
Dominique, quels sont les résultats escomptés ?
L'idée, c'est effectivement de lutter contre le gaspillage parce que, en fait, aujourd'hui, les entreprises se fournissent essentiellement en Asie. Et quand elles commandent, elles font des commandes aux fabricants, c'est des mois avant que les vêtements arrivent dans les magasins. Donc, en fait, elles n'ont aucune visibilité sur le petit manteau qui va marcher ou le t-shirt qui va s'arracher. Donc, en fait, on se retrouve parfois avec énormément d'invendus et donc beaucoup de gaspillage. Donc, l'objectif, en fait, c'est de réduire les commandes lointaines et puis pour les réassorts, de se fournir vers des fabricants au plus proche, ce qui éliminerait effectivement les stocks parce que beaucoup de stocks, ça coûte aussi très cher aux entreprises. Et puis, l'autre phénomène, c'est effectivement toute cette bascule en faveur de l'environnement parce que fabriquer en France ou à proximité, ça veut dire un meilleur bilan carbone. Il y a une étude qui vient d'être publiée par l'Union des industries textile qui montre que si on fabriquait en France, ça permettrait de diviser par deux l'empreinte carbone textile comparée à la Chine. Et puis, si on réfléchit aussi en termes de traçabilité, de transparence, évidemment, une production proche, ça permet d'éviter le travail des enfants. Ou on est à peu près sûr aussi que les gens qui fabriqueraient le feraient dans des bonnes conditions de travail. Donc, c'est un petit peu tout ce mouvement de fond en faveur d'une consommation plus responsable qui fait qu'on se réinterroge sur un approvisionnement plus proche.
Dans cette démarche vertueuse, est-ce qu'il y a des freins côté économique et du côté du consommateur qu'il va falloir débloquer ?
Oui, le principal frein, effectivement, c'est le prix. Le rapport indique que les Français ne veulent pas aller au-delà de 10% d'augmentation. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on s'aperçoit aussi que les Français, les consommateurs, sont plus sensibles à cette notion de mode responsable, finalement, qu'au Made in France. Et selon différents sondages, on voit par exemple qu'il y a plus de 60% des clients des 35-40 ans qui seraient prêts à être fidèles à une marque et donc à mettre la main au porte-monnaie à condition qu'elle soit engagée, alors qu'ils sont seulement 38% à être prêts à payer un peu plus et à faire un effort pour une pièce fabriquée en France. Donc, on voit bien que l'engagement en faveur de l'environnement, d'une mode plus responsable et plus durable, finalement, c'est une formidable opportunité pour produire un petit peu plus en France.
On sait maintenant que pour nuire le moins possible à la planète et pouvoir s'offrir une deuxième vie, il faut veiller à ce que vos bons vieux jeans viennent de moins loin et ne soient composés que de 100% de la même fibre. À vos étiquettes. Merci à Dominique Chapuis, journaliste en charge de la mode et du luxe aux Échos. Merci à Éric Gagnard, le fondateur de Patatam, et également à Pierre-François Lelouette, le président de la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Dans le prochain épisode sur l'économie circulaire, on va voir comment l'eau potable, ça ne coule pas forcément de source. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willigan. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts comme Spotify ou Apple. Et pour suivre l'actualité à travers nos articles, analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.